À l'aune de 25 années d'expérience, Jean-Guy Henkel, fondateur et dirigeant du réseau Cocagne, livre quelques pistes d'action. À retrouver également dans le guide des jardins de Cocagne, Cultivons la solidarité, aux éditions alternatives, mais aussi dans L'arrosoir, la publication des jardins de Cocagne. Sachant que les jardins de Cocagne sont aujourd'hui le premier producteur de produits bio en France, avec 25 000 jardiniers réinsérés et 20 000 familles adhérentes.
C'est bien, vous êtes sur Radio Éthique, vous avez confiance ou pas?
Radio Éthique, d'après le nom, je devrais avoir toute confiance, alors allons-y.
Monaco, c'est juste à côté de la Franche-Comté. La Franche-Comté qui, elle, est à moitié seulement bénie des dieux, selon votre expression.
Ouais, elle est un petit peu oubliée, une région très discrète, un peu froide, où on pense que, voilà, c'est près de la Suisse. On a un accent un peu traînard quand on vient de là-bas, etc. Mais c'est une terre d'innovateurs sociaux, où on a appris à faire des tas de choses collectives, et c'est ça qui m'a détenu là-bas, ça m'a largement inspiré. Voilà, c'est une région inspirante avec des ancêtres faites des belles utopies. Les Fourier, les Proudhon, les Considérants, Claude-Nicolas Ledoux a pensé des phalanstères. Donc ben, on s'est inspiré un petit peu de tout ça et puis on a essayé de faire une version qui corresponde plus à notre siècle.
Intellectuellement bio.
Intellectuellement bio, oui. Donc oui, on s'est dit avec des ancêtres pareils, il faut qu'on fasse quelque chose pour les publics en difficulté. Puis c'est un des premiers endroits en France où sont nées ces premières entreprises d'insertion. Donc nous on a commencé dans une
menuiserie.
Une menuiserie, c'est ça. Comme c'était une région de bois. Puis qu'il y avait un menuisier parmi nous, ben on a fait de la menuiserie.
On est en train de parler des jardins de Cocagne et vous nous parlez, ça a commencé vraiment par de la menuiserie, sérieusement.
Bah oui, il a fallu se faire ses premières armes là-dedans. Et puis, 10-15 ans plus tard, cette menuiserie, d'ailleurs, qu'il faut signaler, qui est née en 1973, fonctionne toujours aujourd'hui. Ça montre que c'était quand même pas une simple petite histoire.
Elle a un nom ?
Oui, elle s'appelle la menuiserie Javel, c'est le nom de la dame qui a créé cette association. Donc voilà, elle fonctionne toujours. Il y a 45 personnes qui y travaillent depuis de longues années. Et puis donc, 10-15 ans après, on a fait de l'auto-école associative, on a acheté une ferme, on a fait plein de choses.
Le constat, c'était quoi? C'était qu'en fait, plutôt que de porter les gens de façon passive, les remettre à faire quelque chose, ça coûtait moins cher humainement, financièrement.
Oui, ça coûtait moins cher humainement, financièrement. Puis il y a un truc très pragmatique, il faut être très honnête, c'est quand vous êtes au fond d'un centre d'hébergement avec des publics en difficulté, il fallait se barrer parce que le climat était trop violent, voilà. C'est soit on était capable de réinventer une autre forme d'intervention sociale, et nous, la forme d'intervention sociale, on a pris le lien social le plus connu dans ce bas monde, c'est de faire des activités, de travailler ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a été amené à créer des entreprises. Chemin faisant, on est arrivé à travailler le concept fin des années 80, début des années 90 des jardins de Cocagne, une exploitation maraîchère, 15-20 personnes qui y travaillent, un maraîcher professionnel qui encadre tout ça. Ils produisent des quantités phénoménales de légumes biologiques, 50-60 variétés différentes, et ils livrent des paniers de légumes bio de 4-5 légumes différents pour 12-15 euros par semaine à des adhérents consommateurs, de tous les volontaires qui veulent bien adopter ce nouveau mode de consommation.
Alors c'est vrai que vous continuez à faire de l'insertion, en même temps les jardins de Cocagne, ça marche bien, c'est dans l'air du temps, c'est pas seulement à la mode, il y a bien quelque chose qui se passe. Il n'y a aucun jardin de Cocagne qui s'est planté en quelque sorte.
Oh ben, faut rester très modeste, j'en ai peut-être un ou deux qui vont se planter dans les années qui viennent, mais jusqu'à maintenant on bichonne tellement les montages, le territoire, la formation des gens, etc. qu'effectivement dans les 45 derniers jardins qui ont été montés, il n'y en a aucun qui a fermé dans les 5 dernières années. Donc c'est plutôt un chiffre encourageant, mais il faut toujours rester vigilant et surtout rester modeste parce qu'on peut tout à fait avoir une configuration territoriale ou financière qui fait qu'il y en a un qui va se planter. Mais pour le moment, ça fonctionne plutôt bien.
Le bio, les jardins de Cocagne sont rigoureusement bio.
Oui, uniquement l'agriculture bio. Nous, l'agriculture bio, on a un projet de développement durable. Donc on a une manière de passer au crible de 3 questions tous les choix qu'on fait. Pourquoi la bio? Parce que économiquement, c'est un créneau qui se développe. Et dans l'insertion, on est toujours dans des trucs pas très intéressants. La bio, c'est respecter aussi les gens qu'on fait travailler parce qu'ils n'utilisent pas des produits merdiques, etc., etc. Et puis, ça correspond aussi à des vrais courants de consommation puisqu'aujourd'hui, les gens réclament de plus en plus une nourriture saine. Et à part me prouver le contraire, je vois pas ce qu'il y a au-dessus de l'agriculture biologique aujourd'hui dans l'offre qu'est faite aux consommateurs.
Alors, ce qui est pas mal, c'est que la réinsertion, ça peut être de façon à ne pas forcément infliger aux gens. On dit qu'on les insère et puis on leur fait faire un travail d'abruti. C'est pas une obligation, ça non plus.
Non, c'est ce qu'un sociologue a appelé la valeur insérante du travail dans un jardin de Cocagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres à qui on offre des boulots aujourd'hui. Je pense surtout aux femmes à qui, quand elles sont un peu déqualifiées, puis qu'elles ont un certain âge et puis qu'elles n'ont pas de formation, à part le ménage et le service, on leur offre rien. J'ai rien contre tout ça, mais je trouve pas ça des boulots les plus valorisants.
Nous sommes d'accord.
J'en étais sûr. Donc là-dessus, quand aujourd'hui on passe de la graine, du plant, de la légume jusqu'à l'assiette, faites et qu'on a des contacts. Voilà, c'est un travail qui a beaucoup de sens, puis dans lequel on se reconstruit, parce que n'oublions pas que les gens, ils viennent là, ils ont beaucoup de choses à reconstruire dans leur tête, dans leurs brisures, dans leurs cassures, et c'est vraiment assez magique ce qui se passe, le travail de la terre. Je ne suis pas en train de dire que ça va régler le problème de tous.
C'est pas fait pour non plus.
C'est pas fait pour, mais ceux qui jouent le jeu et qui ont vraiment envie là-dedans. Et d'ailleurs, il y a un succès dont je n'ai pas parlé ce soir et que j'aurais pu, c'est peut-être un peu malheureux, mais c'est que si on a beaucoup d'adhérents qui veulent des légumes et qu'on n'arrive jamais à cultiver assez de légumes pour prendre le nombre d'adhérents, gros succès commercial, on a aussi un gros succès social, c'est que les gens, même quand ils sont dans la merde la plus profonde, ils restent pertinents en se disant « je sens dans cet endroit-là quelque chose qui est chargé de sens, qui m'aidera peut-être plus que d'aller faire du ménage ou je sais pas quoi d'autre. »
Vous faites des fleurs aussi maintenant dans les jardins de Cocagne.
Voilà, dans le sud de la France, à Avignon, il y a une association qui nous a amené une expérimentation, une recherche et développement sur un concept qu'on appelle fleurs de Cocagne. On va produire des fleurs en bio, on va les confectionner en bouquet, puis on va les vendre localement. C'est terriblement compliqué, puis en même temps, ça vient révolutionner un peu le monde de la fleur, parce que c'est le contraire de ce que fait tout le monde, qui fait venir des fleurs de l'autre bout du monde dans des conditions sociales et écologiques très contestables.
Les rapports avec les pouvoirs publics changent, on peut plus aujourd'hui tout demander à l'État.
L'État reste important, mais uniquement se baser sur l'État, à mon avis, est une erreur un peu stratégique. Si on veut régler des grands problèmes écologiques et les grands problèmes sociaux, c'est quoi les plus gros problèmes qu'on va rencontrer dans les 20 ans qui viennent? C'est la pauvreté et l'écologie. Et si on veut être vraiment efficace, si on veut changer d'échelle, si on veut avoir un impact fort, il faut pouvoir faire des gros trucs et traiter beaucoup de gens, beaucoup de choses. Et ça, on ne pourra pas le faire uniquement avec l'État, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Société civile, le fric de l'entreprise, le monde de l'entreprise et les pouvoirs publics. Et puis ça réinvente aussi un autre mode de rapport avec les pouvoirs publics. Une tendance à être dans la culture de l'injonction.
Nous sommes en France. Hein.
Quand on les met autour de la table avec tout le monde, ils apprennent la négociation.